RFI. Mondial Sport sur RFI. Cédric de Oliveira.
Chicharo que viene. Guardado, Chicharo. Hermano a mano con Botín. Chicharo. Se la pone al Chucky. Le puede pegar. Prefiere el recorte. Chucky. ¡Tiro!
Voilà, Chucky, ou plutôt Irving Lozano, devenu héros national du Mexique aujourd'hui. Mondial Sport commence par cette première grosse sensation de la Coupe du Monde. Le tenant du titre, l'Allemagne, battue par le Mexique 1-0. El Tri, qui a donc fait la différence en première période avant de s'arc-bouter sur son but. Et malgré 25 tirs au total, la Mannschaft n'a pas réussi à revenir dans la rencontre. Notamment parce que le gardien mexicain Guillermo Ochoa s'est aussi montré très très solide. L'ancien portier d'Ajaccio en France, fier de la solidarité affichée par ses coéquipiers.
J'essaie de faire mon boulot, de faire le maximum pour garder les zéros, mais aussi les défenseurs, les milieux, les attaquants. C'est un boulot de toute l'équipe. Et c'est pas juste que moi qui fais le boulot. Donc, je suis fier parce que même on avait des joueurs très, très jeunes qui ont montré des caractères. Donc, je suis très, très content pour tous les supporters mexicains qui sont ici en Russie. Et voilà, et au Mexique, c'est la fête maintenant.
Voilà, jour de fête au Mexique, malgré le décalage horaire, le Mexique, qui donc, malgré une préparation agitée et compliquée, peut maintenant plutôt sereinement patienter avant la suite de cette Coupe du Monde. Ce sera d'abord face à la Corée du Sud, puis la Suède. Alors de son côté, l'Allemagne, évidemment, ne s'attendait pas du tout à faire ce genre d'entame. Mais comme l'Espagne en 2014, la France en 2002 ou encore l'Argentine en 1990, le tenant du titre de cette Coupe du Monde trébuche dès son entrée en lice. On n'a pas vraiment reconnu les Allemands, notamment en défense, bousculés, dépassés par la vitesse et la justesse des contre-attaques mexicaines. Et pour le taulier de la défense, Mats Hummels, cette défaite est logique vu le comportement de la Mannschaft.
Nous avons joué de la même manière que lors de notre dernier match de préparation face à l'Arabie Saoudite, mais l'adversaire était bien supérieur. Le Mexique mérite sa victoire. Mais nous leur avons facilité les choses par la manière dont nous avons joué. Notre défense a connu de gros problèmes, c'est évident. Très souvent, Boateng et moi, on s'est retrouvés tout seuls. C'est pour ça que nous avons subi autant de contre-attaques. Je ne comprends pas pourquoi nous avons joué comme ça. Je pense que nous allons corriger ça et jouer mieux nos prochains matchs.
Voilà la confiance de Mats Hummels malgré cette défaite inaugurale. Le prochain match contre la Suède samedi prochain s'annonce d'ores et déjà capital pour l'Allemagne. Les Suédois justement qui pourraient un peu plus mettre les Allemands en difficulté si ils venaient à battre la Corée du Sud. Rendez-vous à partir de midi, temps universel. Ce sera ce lundi. Et puis autre favori qui a déçu dans cette journée, le Brésil. On attendait une Seleção flamboyante avec tous ses talents offensifs. On parle de Neymar, Coutinho ou encore Gabriel Jesus. Eh bien, elle a été tenue en échec un partout pour son entrée en lice dans la compétition. Coutinho, justement, avait ouvert le score d'une belle frappe enroulée. Mais Steven Zuber a égalisé pour la Nati un partout. Donc, score final. Voilà le Brésil qui va devoir se ressaisir. On parlera notamment de ces débuts compliqués du Brésil et de l'Allemagne dans Radio Foot International demain avec Annie Gasnier et toute son équipe. Voilà, c'est début compliqué pour les favoris. Le Brésil qui va devoir se ressaisir, je vous le disais, car au classement de ce groupe E, pour l'instant, eh bien, c'est la Serbie qui est en tête après un succès 1-0 face au Costa Rica. Le Costa Rica de Keylor Navas. C'est Kolarov sur un coup franc absolument remarquable qui a marqué le seul but de la rencontre. L'Allemagne battue, le Brésil et l'Espagne accrochées dans ces conditions et parmi les favoris et outsiders de cette Coupe du Monde, ben la France s'en sort plutôt bien pour l'instant. Les Bleus, on le rappelle, qui se sont imposés difficilement samedi 2-1 contre l'Australie dans un match qui a révélé quelques lacunes du groupe français, pas encore très rodé, notamment offensivement. La France qui a démarré avec 3 attaquants pour finir la rencontre avec seulement 2 joueurs aux avant-postes. Certainement des interrogations dans la tête du sélectionneur l'entraîneur Didier Deschamps et son staff qui avaient décidé de scinder le groupe en deux ce dimanche. D'un côté, les titulaires au repos, de l'autre, les remplaçants qui se sont dégourdis les jambes sous les yeux d'Antoine Grenier.
Une petite opposition au stade Glebovets, les remplaçants du match contre l'Australie affrontant les moins de 19 ans du Spartak Moscou. Un peu de temps de jeu dans cette Coupe du Monde pour ceux qui, en grande partie, ne devraient pas beaucoup fouler les pelouses du Mondial. Pour que vraiment tout le monde puisse jouer, le troisième gardien français, Alphonse Areola, s'est installé dans les buts du Spartak. Le Parisien avait même appris quelques mots en russe pour communiquer avec sa jeune défense. Score final, 3-2 pour les remplaçants français, Giroud, Fekir et Matuidi étant les buteurs. Côté bleu, les titulaires contre l'Australie, eux, étaient restés à l'hôtel. Décrassage, repos et soins au programme avant de se tourner vraiment vers le match du Pérou, deuxième rencontre du groupe C prévue jeudi. Et dans cette préparation, sans doute, les questions nées de la prestation contre l'Australie. L'annonce par la FIFA du retrait à Paul Pogba de son but vainqueur, finalement attribué contre son camp à Aziz Behic, voilà qui ne sera finalement que le cadet des soucis bleus. Manque d'agressivité, problème de vitesse, ballon trop souvent laissé aux Australiens. N'Golo Kanté, 14 ballons récupérés, a eu beau endiguer les errances du milieu de terrain. Il dressait un constat après match, 3 ou 4 joueurs au milieu, peu importe, finalement, seule la volonté compte.
Mon ressenti sur le terrain et aujourd'hui, c'est dans la possession, dans les transmissions. On a fait tourner la balle, mais on n'a pas trouvé les passes intérieures pour gêner l'adversaire. C'est des choses sur lesquelles on doit travailler parce que c'est ces passes-là, ces positions-là qui nous permettent de faire des différences. Et je pense que c'est des choses qu'on doit rechercher pour les prochains matchs si on est amené à jouer contre des équipes comme ça ou faire des matchs pareils. Ouais. Les systèmes ou les joueurs, c'est pas le plus important. Au final, c'est ce qu'on met dedans. C'est l'engagement, la créativité. Et je pense que c'est aux causes de voir ces choses-là dans n'importe quel système ou n'importe quel joueur qui joue. Le plus important, c'est ce que les joueurs mettent dedans dans ce système.
Une réflexion partagée par Lucas Hernandez, autre satisfaction tricolore face aux Soqueros. Le latéral gauche de l'Atlético de Madrid a admis préférer jouer avec 4 milieux devant lui pour plus de sécurité défensive. Une petite pique adressée aux attaquants, Kylian Mbappé et surtout Ousmane Dembélé, à qui il est souvent reproché de ne pas assez participer aux tâches défensives. Et Hernandez en a un peu rajouté, regrettant presque qu'Olivier Giroud, l'attaquant de Chelsea, n'ait disputé que 20 minutes contre l'Australie.
Dans l'entraînement, on a fait les deux compos, on a fait le 4-4-2, le 4-3-3. Mais c'est sûr que oui, c'est vrai qu'en match, on a débuté avec le 4-4-2, mais bon, après le 4-4-2, on a joué avec Giroud en pointe. Et bien là, pour ce match-là, il n'était pas 100% à cause de son coup. Alors voilà, on sait que c'est un joueur très important et quand il n'est pas là, on le sent. Mais bon, après, il a pu rentrer et voilà, c'est un joueur très important. Dans ce système 4-4-2, son rôle est très très important.
De quoi alimenter encore un peu plus la réflexion de Didier Deschamps en vue de la rencontre face aux Péruviens. Antoine Grenier, Istra, RFI.
Antoine Grenier qu'on retrouvera jeudi au commentaire de cette rencontre entre la France et le Pérou. Ce sera en compagnie d'Alejandro Valente. Intéressons-nous maintenant au Nigeria pour qui cette Coupe du Monde a bien mal commencé avec une défaite 2-0 face à la Croatie. Alors quand on sait que le groupe D, qui comprend aussi l'Argentine et l'Islande, est sans doute l'un des plus relevés de ce mondial, ce revers met déjà les Super Eagles dos au mur dans l'optique d'une qualification pour les huitièmes de finale. Les hommes de Garnot Rohr, peu tranchants devant, naïfs derrière, vont devoir s'employer pour renverser la vapeur face à l'Islande et face à l'Argentine de Léo Messi. En tout cas, ils peuvent compter sur l'affection de leurs supporters, ceux qui ont fait le voyage pour les suivre jusqu'en Russie, même si certains, évidemment, sont très déçus, comme a pu le constater Hugo Moissonnier sur place.
Hier soir, à Kaliningrad, les fans croates étaient bien plus nombreux et sur la pelouse. Les jeunes Super Eagles ont affiché leurs limites dans un match bien terne. Ce dimanche, à l'aéroport, l'excitation a donc laissé place à la fatigue, mais Mika, qui a fait un long voyage de Lagos à la Russie, ne veut pas perdre le sourire.
C'est mon équipe, je suis prêt à faire des sacrifices pour elle. Je ne suis pas déçu, la Croatie, selon moi, est la grande favorite de ce groupe. On a perdu, mais on peut gagner contre l'Islande et l'Argentine. Je suis très très confiant.
Mais il est bien le seul à afficher un tel optimisme au moment de s'envoler pour Volgograd. C'est là que les Super Eagles affronteront l'Islande vendredi. Dany, lui, n'y croit plus vraiment.
Je suis très déçu. On attendait beaucoup de cette équipe. J'ai fait un long voyage de l'Afrique du Sud à la Russie en passant par le Nigeria. Je ne le regrette pas car j'apprécie l'ambiance ici en Russie, mais mon enthousiasme s'est envolé en à peine 90 minutes. Jouer contre l'Islande et l'Argentine avec une défense comme la nôtre sera problématique. Je n'attends plus rien des Super Eagles, mais voyons ce qu'ils vont faire vendredi.
Lui aussi est déçu. Steven, les traits tirés après une nuit très courte, il distribue tout de même quelques bons points.
J'ai trouvé que Victor Moses était le meilleur Nigérian sur le terrain. Il a joué avec passion, il a attaqué, il nous a permis de nous créer des occasions. Mais j'ai été déçu par la prestation de John Obi Mikel, notre capitaine. Lui n'a pas joué avec passion. Il mettait du temps pour revenir défendre et ses passes n'étaient pas tranchantes. Il n'a pas contrôlé le milieu comme il sait le faire.
Dany, encore lui, souhaite voir Gernot Rohr effectuer quelques changements ce vendredi. Et Etebo, buteur contre son camp, et Trostekong, qui a concédé le pénalty du 2-0 ce samedi, ne sont pas dans son viseur.
Odion Ighalo n'est pas l'attaquant de pointe qu'il nous faut. Il est trop lent, trop lourd. Il faut aussi faire des changements sur les ailes. Selon moi, le milieu de terrain était parfait et la défense, malgré ses erreurs, va progresser, j'en suis certain.
Mais pour Mika, la réponse sera surtout collective.
C'est un travail d'équipe. Ce n'est pas un joueur, c'est toute l'équipe qui joue mal.
Et les supporters, ils vont aider l'équipe?
Bien sûr, comme toujours.
Hugo Moissonnier, Kaliningrad, RFI.
Et le Nigeria, qui sera de retour vendredi dans cette Coupe du Monde, il affrontera l'Islande, toujours pour le compte de ce groupe D. Alors après la défaite du Nigeria, de l'Égypte, mais aussi du Maroc, on attend avec impatience enfin la première victoire africaine dans ce mondial. Pourquoi pas grâce à la Tunisie qui fait ses débuts demain lundi face à l'Angleterre pour le compte du groupe G. Ce sera à Volgograd dans le sud de la Russie sous les yeux d'Eric Mamrut que l'on retrouve. Bonsoir Eric Mamrut.
Bonsoir Cédric, bonsoir tout le monde.
Alors demain ce sera donc le grand retour de la Tunisie en Coupe du Monde.
Oui, 12 ans depuis 2006 que les Aigles de Carthage n'avaient pas participé à la grande fête du football mondial. Après les échecs de 2010 et de 2014, les Tunisiens ont cette fois réussi à se qualifier en prenant notamment le meilleur en éliminatoire sur la République démocratique du Congo. C'était d'abord avec Henri Kasperzak, ensuite après deux matchs avec Nabil Maloul qui a remplacé le technicien polonais remercié. Voilà donc la Tunisie en Coupe du Monde pour la cinquième fois de son histoire. La première, c'était en 1978 en Argentine, édition au cours de laquelle les Aigles avaient remporté leur tout premier match, c'était face au Mexique, et c'est à ce jour la seule victoire enregistrée par les Tunisiens en Coupe du Monde. 40 ans après, les supporters attendent la deuxième et rêvent d'une qualification historique pour le deuxième tour. Elle sera compliquée à aller chercher, il faut le dire, ceci dans un groupe G très relevé, composé de l'Angleterre, de la Belgique et du plus faible Panama. La Tunisie aborde en tout cas ce tournoi en confiance, forte de ses bons matchs amicaux. 5 rencontres ponctuées de 2 victoires contre l'Iran et le Costa Rica, 2 nuls face au Portugal et la Turquie et une courte défaite contre les Espagne, du coup, pour son sélectionneur, la première nation africaine au classement FIFA, les 21e, a vraiment des atouts à faire valoir dans cette Coupe du Monde. On écoute Nabil Mahaloul.
Ce qui nous a mis en confiance, c'est surtout notre solidarité, notre homogénéité, notre savoir-faire aussi, malgré l'inexpérience de certains joueurs. Tous les joueurs tunisiens, c'est leur première Coupe du Monde. Mais je pense qu'on a d'autres qui ont joué une Coupe du Monde des clubs, d'autres qui ont joué la Champions League aussi, plus l'expérience de la Ligue 1, de la Première Ligue. Et je pense qu'il nous a donné beaucoup plus de confiance, et c'est les derniers matchs qu'on a joués surtout, les journées FIFA du mois de mars et les derniers matchs amicaux qu'on a joués avant l'entame de cette Coupe du Monde. Je pense qu'on a fait une très très bonne préparation, on a deux jeunes joueurs, pratiquement la moyenne d'âge de l'équipe nationale tunisienne est la troisième dans cette Coupe du Monde. On est bien armé pour jouer les premiers rôles dans ce groupe, malgré que je dis que c'est le groupe le plus difficile vu ce qu'a montré la Belgique et l'Angleterre ces derniers temps. Je pense que l'équipe nationale est bien armée pour faire face à ces deux nations qui sont très fortes.
Voilà, Nabil Mahaloul, point négatif toutefois pour lui, il va devoir se passer durant ce tournoi de son attaquant vedette Youssef M'Sarkhni.
Oui, malheureusement, l'âme et l'atout offensif numéro 1 de la Tunisie a déclaré forfait pour cette Coupe du Monde il y a 2 mois, la faute à une rupture des ligaments croisés du genou. Les Aigles vont donc devoir encore plus compter sur leur solidarité et leur esprit collectif, avec l'espoir que Wahbi Khazri, l'autre star de l'équipe qui est tout juste remis d'une blessure à la cuisse, fasse les différences. Wahbi Khazri, l'un des nombreux binationaux qui composent l'équipe tunisienne, ils sont une petite dizaine dans les 23, surtout depuis que 4 joueurs nés en France ont donné récemment leur accord pour porter les couleurs de la Tunisie. Il s'agit de Johan Benalouane, d'Elies Kiri, de Mouez Hassen et de Saïf Eddine Khaoui. Ils ont bien renforcé l'équipe, surtout que leur intégration s'est parfaitement opérée. Écoutez l'un d'entre eux, Saïf Eddine Khaoui, le joueur de Troyes, tout heureux de disputer à 23 ans une Coupe du Monde.
C'est un rêve, c'est une fierté, c'est rendre heureux toute la famille, tous les proches, tout le peuple tunisien et voilà.
C'est allé très vite pour vous, non? Comment se passe déjà l'adaptation, parce que vous n'êtes pas en sélection depuis très longtemps?
Ouais, c'est la deuxième fois que le coach fait appel à moi. Je me suis bien intégré dès le premier stage, donc voilà, je remercie tous mes partenaires de m'avoir bien intégré.
C'était compliqué un peu, il y avait de l'appréhension de votre part?
Ouais, de l'appréhension c'est normal, comme première à toute chose, mais voilà, je me suis bien intégré je trouve.
Et alors ce groupe, il est comment là?
Non, il est bien, ça vit bien, il y a un peu de tout, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, voilà, on vit bien.
Il y a d'autres binationaux aussi, ça doit aider.
Oh, aussi, ça aide aussi, et il y a aussi des joueurs locaux qui nous ont bien intégrés.
Et ce groupe tunisien va donc entamer sa Coupe du Monde demain à Volgograd face à l'Angleterre. Un premier match à bien négocier, surtout qu'après il y aura la Belgique. Et seulement en guise de troisième adversaire, le Panama. La victoire sera alors très jouable face aux Panaméens. Mais la qualification, elle, se jouera sans doute avant pour les Aigles de Carthage.
Eh bien, merci Eric Mamrout. Premiers éléments de réponse donc dès demain lundi pour ce Tunisie-Angleterre, prise d'antenne à partir de 17h40 temps universel pour l'avant-match, à vivre en direct et en intégralité sur RFI. Ce sera en compagnie d'Hugo Moissonnier. À noter qu'il y aura une autre rencontre dans ce groupe G. La Belgique affronte le Panama à partir de 15h temps universel. Et puis le dernier pays africain à débuter cette Coupe du Monde sera le Sénégal, mais là ce ne sera pas avant mardi contre la Pologne dans le groupe H. Les Lions de la Teranga qui trépignent d'impatience avant de vraiment entrer dans la compétition, eux qui retrouvent une phase finale de mondial 16 ans après leur dernière participation, c'était en 2002 en Corée du Sud et au Japon. L'attente est énorme au Sénégal et le sélectionneur Aliou Cissé a hâte lui aussi d'entrer dans le vif du sujet. Olivier Pron a pu le rencontrer avant ses grands débuts pour échanger sur son rôle, ses espoirs aussi et sur la confiance qu'il porte à ses joueurs.
Dans le football, il n'y a pas de certitude, mais c'est vrai qu'on a des idées, on a des pistes. N'oubliez pas que depuis 3 ans, on est à la tête de cette équipe nationale-là, donc c'est un groupe que j'ai choisi moi-même. Donc forcément, c'est un groupe que je connais, c'est un groupe avec des garçons depuis 3 ans, nous bourlinguons un petit peu partout en Afrique, sur le continent, dans des conditions très difficiles. C'est une équipe qui a un passé, qui a un âme, c'est une équipe aujourd'hui qui a connu des moments très 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 hauts, mais aussi qui a connu aussi des moments très 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 bas. Cela fait partie de l'expérience de cette équipe-là. Maintenant, comme je dis, la Coupe du Monde, c'est autre chose, c'est un autre level, c'est un autre niveau. À nous de lever notre niveau de jeu pour être à la hauteur de l'événement.
Ça fait 16 ans que le Sénégal attend de revoir son équipe nationale en Coupe du Monde. Vous parliez des bas, il n'y a eu pratiquement que des bas entre 2002 et maintenant. Il est temps que les hauts reviennent haut et fort.
On a eu des moments très difficiles, c'est vrai, parce que après 2002, les signaux étaient vraiment verts et tout le monde voyait en réalité cette génération 2002 dérouler et dominer le football africain sur les 5, 10, 15 ans qui arrivent. Ça n'a pas été le cas. Les raisons sont multiples. C'est vrai aussi que tous les 2 ans, il y avait des changements d'entraîneurs. Moi, de ma part, je ne crois pas que c'est en changeant d'entraîneur tous les 2 ans qu'on arrivera à faire quelque chose. Donc quand je suis arrivé, je pense que c'était important pour moi de choisir un groupe, de choisir une ossature, de travailler avec eux et d'être dans la continuité et la cohérence. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de faire. 14 à 15 joueurs qui étaient à la CAN en 2017 sont encore présents, parce que je crois en tout cas, c'est avec la continuité qu'on arrivera et la stabilité qu'on arrivera vraiment à faire quelque chose.
Il y a un groupe qui est là, on connaît ses qualités, avec des leaders, et on parle évidemment de Sadio Mané, finaliste de la Ligue des Champions. Vous l'avez récupéré en bon état et il a encore faim de match et de victoire et de buts, surtout parce que c'est ce qu'on attend dans votre groupe. Il y a des serial buteurs, Falcao, Lewandowski, Sadio Mané, on en veut des buts dans ce groupage.
Oui, j'espère qu'en tout cas nous on les mettra à ces buts-là. Non, Sadio c'est quelqu'un d'exceptionnel, c'est un garçon formidable, avec une éducation vraiment formidable. Son talent n'est plus à dire. Je crois que ce que je retiens surtout du joueur, mais surtout de l'homme, c'est le respect qu'il a vis-à-vis de la fédération, des fédéraux, le respect qu'il a aussi et l'attention qu'il a vis-à-vis du staff technique, et surtout le respect et l'attention qu'il a vis-à-vis de ses joueurs. Le niveau où il est aujourd'hui, tout le monde s'attendait qu'il change, mais en réalité le garçon est resté toujours le même, et c'est ça qui est impressionnant chez lui. Il est d'une humilité mais vraiment exceptionnelle, et vraiment c'est un plaisir, si vous voulez, d'entraîner ce genre de joueurs-là.
On l'a dit, pas de Coupe du Monde depuis 2002, forcément, vous avez la pression. Forcément, le pays vous attend. Forcément, on connaît le potentiel du Sénégal et on se dit, on va voir ce qu'on va voir.
C'est normal que les gens aient de l'espoir, et je crois qu'ils ont raison d'avoir de l'espoir. Mais comme je dis, nous, dans notre philosophie depuis 3 ans, c'est de prendre dans les matchs les uns après les autres, et il faut qu'on continue à garder cette philosophie-là. On sait que tous les matchs seront disputés, ardemment disputés, âprement disputés, mais je crois que nous avons l'habitude de ces genres de matchs-là. Se qualifier sur le continent africain, croyez-moi, ce n'est pas quelque chose de facile. Voilà, parce que il n'y a que 5 nations qui doivent y jouer, et vous êtes obligés de partir partout et jouer dans des conditions qui sont très difficiles. Donc le combat, on connaît, la découverte, on connaît aussi, et en plus de ça, on a des garçons qui sont vraiment talentueux. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, l'ennemi du Sénégal, c'est le Sénégal. Donc si on arrive vraiment à avoir et à garder cette solidarité-là qu'on a depuis vraiment pratiquement depuis 3 ans, continuer à travailler dans les conditions que nous sommes en train de travailler, tout en gardant l'envie de bien vivre et de vivre ensemble, vraiment la joie, le plaisir, parce que tout ça fait partie de notre culture, tout ça fait partie de notre histoire africaine. Je pense qu'on peut faire des très belles choses.
Qu'est-ce que le capitaine que vous étiez en 2002 apporte au sélectionneur que vous êtes aujourd'hui en termes d'expérience par rapport aux joueurs dans le discours ?
Non, je crois que 2002 j'étais le capitaine, aujourd'hui je suis l'entraîneur, donc ça n'a absolument rien à voir. Je crois qu'aujourd'hui les gens caricaturent un peu, collent un petit peu le côté de Aliou Cissé, capitaine, aboyeur, courant partout. J'avais que 24, 25, 26 ans je crois, et qu'aujourd'hui je me suis essoufflé un petit peu, je suis beaucoup plus sage, beaucoup plus tranquille. J'ai pris un peu plus de recul sur les choses, mais c'est vrai que cette expérience-là est là, et c'est notre devoir, c'est notre droit aujourd'hui de pouvoir, si vous voulez, transmettre cette expérience-là à cette jeune génération, leur faisant comprendre tout simplement, attention, ça, si vous faites ça, c'est pas bon, parce que nous, on l'avait fait en 2002 et on n'a pas vu les bons résultats. Mais par contre, ça, si vous le faites, je pense qu'on peut obtenir quelque chose. Mais jusqu'à présent, je crois qu'ils ont toujours fait ce qu'on leur avait dit, et les résultats sont là depuis quand même pratiquement 3 ans. Quand on voit que depuis 3 ans, on n'a pas perdu un seul match officiel, ça prouve tout simplement que le boulot que nous sommes en train de faire, même si tout n'est pas parfait, je pense que nous sommes sur le bon chemin.
Alors rentrons dans ce groupe H. On dit que c'est un groupe très ouvert, bien malin, qui pourrait mettre une pièce sur les deux qui vont sortir de ce groupe-là. Vous êtes d'accord avec ça ?
Les premiers matchs seront déterminants. Je crois que, bien sûr, il y a la Pologne avec de très grands joueurs comme Lewandowski. Vous avez aujourd'hui la Colombie, Falcao. Hein. Et puis, vous avez le Japon aussi qui ont de très, très, très bons joueurs avec des joueurs expérimentés qui ont l'habitude de jouer ensemble depuis un bon bout de temps. Le football asiatique est en train de progresser. Je crois que chacun a sa chance dans cette poule-là. Donc, comme je le dis, nous venons en tout cas en cette Coupe du Monde-là parce que nous avons notre mot à dire. Nous sommes ambitieux. Nous avons envie de sortir de cette poule-là. Et je pense que nous avons assez de qualité pour le faire.
C'est quoi l'objectif ?
Aller le plus loin possible. Pour en premier temps, de sortir de la poule, eh bien, bien sûr, si aujourd'hui, on peut gagner la Coupe du Monde, mais pourquoi on ne se gênera pas ? Donc on le gagnera.
Imaginez ça, Dakar, gagner la Coupe du Monde, mais il faudrait mettre des semaines avant de rentrer, ce ne serait pas possible.
Il faut penser grand et rêver grand, mais il faut commencer petit, donc on va commencer petit pour continuer notre histoire. Aujourd'hui, être à la Coupe du Monde, c'est quelque chose qu'on a mérité. On a envie d'aller loin, mais on a envie aussi d'en profiter. Donc c'est un plaisir. Alors, hâte d'être dans le premier match pour prouver et montrer ce dont l'équipe nationale du Sénégal est capable de faire.
Voilà, le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, il était interrogé par Olivier Pron. Si vous êtes supporter du Sénégal ou si vous aimez le football, tout simplement, ne manquez pas ce Pologne-Sénégal. Ce sera donc mardi à partir de 15h, temps universel, aux commentaires. Ce sera Olivier Pron et Christophe Jousset. Voilà, on a été plutôt complet pour cette Coupe du Monde de football. Maintenant, on va parler de rugby. On l'a brièvement évoqué hier. Le 15 de France de rugby qui est actuellement aux antipodes en Nouvelle-Zélande pour une série de 3 test matchs face aux All Blacks. Samedi, ils ont concédé une deuxième défaite en autant de rencontres, 26-13. Alors certes, ce n'est pas une déroute comme le premier match, mais ça reste une défaite. Le tout en ayant joué quasiment toute la rencontre en infériorité numérique après l'exclusion très rapide de l'arrière Benjamin Fall. Alors malgré la défaite, les Bleus étaient donc plutôt satisfaits. Oui, ils ont plutôt l'habitude de perdre lourdement face à ces All Blacks. Ils estiment que ce revers est plein d'enseignements pour la suite, comme nous l'explique Vincent Delzesco qui était sur place.
C'était même à s'y méprendre. Les sourires et la bonne humeur des joueurs rencontrés après le match nous auraient presque fait douter du résultat final. La France aurait-elle décroché une victoire face aux All Blacks? Pas du tout, mais c'était tout comme pour Jacques Brunel.
Vu le contexte, faut retirer beaucoup plus de positifs que de négatifs. Parce que tout le monde a été un ton au-dessus la semaine dernière. Surtout dans la communication, dans la complicité, dans l'effort. Donc à partir de là, on limitait quand même les risques.
Le contexte dont parle le sélectionneur, c'est l'exclusion de Benjamin Fall après 12 minutes de jeu, laissant ses coéquipiers à 14 contre 15 pratiquement toute la rencontre. À cet instant, il n'en fallait pas tant pour que Geoffrey Doumerou et les Bleus imaginent l'enfer.
Après à 14, voilà, on s'est mis sous les poteaux et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, on en prend 70 ou on montre du caractère. Et je crois que voilà, on a essayé de jouer, on a bien défendu aussi. On a une bonne mêlée, tout le monde a été intelligent, tout le monde s'est envoyé. On a montré beaucoup de caractère ce soir et c'était très important je pense à 14 contre les Blacks, sinon l'addition elle aurait été salée là.
Le spectre de la première défaite 52-11 à Auckland planait au-dessus des Bleus et un nouveau revers d'une telle ampleur aurait sans doute fait mal aux têtes. Le demi d'ouverture Anthony Bello.
Après le premier match, on avait rivalisé une mi-temps et il nous avait manqué quelque chose sur la moitié de la deuxième. Ce quelque chose, on l'a retrouvé. Ça reste une défaite, mais y a, comme on a dit dans le vestiaire, il y a des victoires où on se fait petit parce qu'elle n'est pas aboutie. Et il y a des défaites, des fois, qui font grandir et je pense que ce soir, on est grandi. Je pense qu'il y a des bonnes bases et on peut s'appuyer là-dessus pour construire encore plus sur l'avenir.
Et l'avenir, justement, s'écrira samedi prochain à Dunedin. Dernier test pour le 15 de France et dernière occasion de réaliser un exploit auquel Mathieu Bastaro et les Bleus se sont pris à rêver.
On peut être fier de nous, mais il nous reste quand même un match. On se connaît que nous, Français, des fois, on a un peu tendance à tomber dans l'euphorie. Alors, c'est vrai que c'est bien ce qu'on a fait, mais ça reste une défaite. Et le troisième test, c'est toujours un peu piège. Pour nous, c'est le dernier match de la saison. Il va bien falloir le préparer. On va se reposer. Et lundi, voilà, faut arriver à l'entraînement avec l'envie d'aller gagner à Dunedin.
Voilà, sujet de Vincent Delzesco, notre correspondant à Wellington. Et puis sachez aussi, pour être complet sur le rugby, que l'équipe de France des moins de 20 ans a été sacrée championne du monde de sa catégorie. Les Bleuets ont dominé en finale l'Angleterre 33-25 à Béziers dans le sud de la France. C'est le premier titre de champion du monde pour une équipe de France dans cette catégorie. Voilà pour Mondial Sport, c'est terminé pour ce dimanche. Merci à Hélène Avril qui m'a aidé à préparer cette émission. De rendez-vous demain dès 15h10 temps universel, Radio Foot International avec Annie Gasnier et toute son équipe pour débriefer notamment les défaites, la défaite de l'Allemagne surprise face au Mexique 1-0 et le match nul du Brésil face à la Suisse 1 partout. Et puis prise d'antenne à 17h40 temps universel pour Tunisie-Angleterre en direct et en intégralité sur RFI. Un dernier petit mot, n'oubliez pas de vous abonner à la page Facebook de Mondial Sport, vous y trouverez plein d'infos notamment sur cette Coupe du Monde. Quant à moi, je vous souhaite une très très belle soirée sur RFI.
Appelez-nous, exprimez-vous. Juan Gomez.
La terrible épopée de l'Aquarius aura duré une semaine. Ce navire humanitaire, avec à son bord plus de 600 migrants sauvés au large de la Libye, est finalement arrivé en Espagne, alors que ni l'Italie ni Malte n'ont voulu l'accueillir. Que vous inspire l'attitude de l'Europe sur la question migratoire?
33 9 693 693 70.
Juan Gomez, avec vous au téléphone demain, à partir de 8h10 TU.